Chapitre 7. La dépouille fut déposée dans l'appartement des femmes. Guillaume y vint quand celle-ci l'entourait, et Coriante, selon l'usage, lamentait le deuil du royaume. À son arrivée, elle s'interrompit. La joie et le désir couraient de l'un à l'autre avec la vitesse des regards qu'échangent dans le ciel nocturne les étoiles. Elle l'entraîna dans la chambre du trésor dont elle venait de saisir les clés sur le mort, et là, tous deux seuls au milieu des richesses de Kalaat, dans cette pièce demi-obscure, son visage passionné luisait comme un vase d'albâtre éclairé intérieurement. Le jeune homme lui dit « Je l'ai servi loyalement pour l'amour de vous, mais que sert de mentir? Je me réjouis de sa mort. » « Avant tout, dit-elle, en l'écartant d'un geste, il faut que tu commandes dans Kalaat. » Et sur l'heure, pressée de devancer toute intrigue, elle appela près d'elle les principaux dignitaires et chefs. Assise au milieu d'eux, et Guillaume debout à son côté, elle leur prodigua avec aisance, telle une fontaine d'éloges, les plus gracieuses hyperboles de l'amitié sur leur bravoure, leur haute raison et leur fidélité. Et, soudain, pour conclure, elle exposa crûment qu'ils avaient tous le même intérêt à ne pas se diviser, sinon ils périraient les uns par les autres et par l'ennemi. C'est Sir Guillaume qui nous a donné le bon conseil de rassembler ici nos ressources, et c'est lui seul qui peut nous ménager l'appui des chrétiens de Tripoli en même temps que nous appelons les musulmans de Damas. Je vous propose que nous constituions, sous sa présidence, un conseil de la défense. Et puis, leur dit-elle en substance de la voix la plus pure, avec un regard de vierge, « J'attends de vous un grand service de bonté. Que peuvent devenir les femmes du sérail? C'est à vous de les protéger, elles vous appellent. Je vous demande que vous les partagiez, les sommes assez importantes qui chaque mois étaient dépensées pour leur entretien dans le harem, légitimement doivent les suivre dans vos mains. » Ils acclamèrent la Sarrasine, la confirmèrent dans son titre de reine et firent leur affaire de persuader les officiers subalternes et les troupes. Ainsi, la transmission des pouvoirs s'opéra sans difficulté. À la nuit, la savante vint prendre Guillaume par la main et le mena en secret dans la chambre dorée d'Oriente. Tandis qu'il se glissait à travers l'ombre des longs corridors, la jeune femme, en guise d'adieu à leur plaisir qu'elle sacrifiait à l'amour, lui récita les vers du poète. « La tulipe fleurit promptement et s'en va légère et rapide, mais le rubis qui se forme avec lenteur ne craint rien du vent ni de la pluie et traverse toutes les saisons. » Le jeune homme pleura d'enivrement en s'agenouillant devant la Sarrasine qui lui disait « Comme je t'ai attendu avant même que je te connusse, que de fois avec quelle ardeur je me suis répété « Quand viendra-t-il dans ma chambre celui dont mon espérance m'assure qu'avec lui et jusqu'à la mort je serai reine et heureuse ?» Au milieu du chaos de danger qui nous presse, hâte-toi, ami de mon cœur, tout ici t'appartient. » Son visage brillant et pur, ses mains délicates teintées de henné, ses petits pieds fardés et tout son corps d'ambre et de jasmin répandaient la douce lueur d'une lampe de mosquée. Jusqu'à l'aube dans la citadelle, on entendit les hurlements des femmes auprès du cadavre royal, et tout autour de la ville, les tambours des chrétiens qui se réjouissaient. Eux, cependant, il semblait le repos d'un agneau dans les bras de son jeune berger, ou l'innocent enroulement d'une couleuvre sans venin qui s'est glissée pour s'y réchauffer sur le cœur d'un enfant qu'elle aime. Dans ces minutes, où il rassasiait les désirs de son corps et de son âme, Guillaume vivait hors du temps. Aussi, quelle surprise, quand Oriente, se soulevant sur son coude, lui dit, au milieu de la nuit, « Toi, qui es du Christ, pourquoi, en livrant la ville à tes frères chrétiens, n'en serais-tu pas le premier roi et libre de choisir ta reine. Et, lumière de ma vie, étoile du matin et porte du ciel, il est bien sûr que tous, chrétiens ou païens, voudraient se ranger sous votre loi, mais ils auraient au fait de me trouver de trop, et si vous voulez, j'aime autant ne pas tenter l'aventure, car après la tendre preuve que me donne cette nuit, je n'imagine plus pouvoir vivre et mourir qu'en votre amitié totale et sacrée. Oui, totale et sacrée, mais précisément, une telle amitié, il faut qu'elle soit hors de pair. Et comprends bien, je te le dis à cette heure de vérité où tu me tiens sur ton cœur, je ne pourrais pas me passer, que tu m'en blâmes ou m'en approuves, je ne pourrais pas me passer, que l'on portât devant moi, non pas des fleurs et des trésors, mais les étendards, et que les visages fussent non pas souriants et admiratifs, mais inclinés par le respect et l'obéissance. J'ai besoin que l'obéissance craintive courbe ceux qui m'entourent. Je ne pourrais pas plus respirer sans ma puissance que sans ton amour. » Il fut étonné qu'elle éprouvât du goût dans un tel moment pour ce genre de discussion, et sans trop l'écouter, il l'embrassait avec un redoublement d'amitié et de gaieté. L'innocent ne trouvait dans cette irritation de l'orgueil de sa maîtresse qu'un excitant au plaisir. L'aube de cette nuit se leva sur une suite de jours inimitables. Guillaume sortit de cette chambre et de leur secret, le cœur enthousiasmé. Tous les rosiers étaient morts, les rossignols partis, mais la sarrasine remplissait de chants et de parfums l'univers. Sur Calat flottaient ces hymnes de gratitude qui surgissent du fond de l'être après le plaisir, comme des fleurs mystérieuses épanouies en une nuit à la surface des eaux profondes. De ces caresses et de cette âme qui viennent de l'accueillir, Guillaume emporte un sentiment si fort qu'il ne les quitte presque avec joie pour mieux en jouir et pour vivre dans une imagination d'amour et de beauté plus forte qu'une présence réelle. Ce n'est qu'après un délai qu'il aura besoin de revoir son amie et de repeupler auprès d'elle ses forces. Il s'agite, il chante, il se remémore et bénit le ciel. Mais dans quelques heures, après ce répit de quiétude, de large respiration et d'une sorte d'immunité, sous peine d'une angoisse bientôt intolérable et comme si la provision de vie s'était épuisée, il faudra qu'il rejoigne la sarrasine et que de sa voix, de son regard, de tout ce qui émane de son corps et de son âme, elle le recharge de confiance. Les deux jeunes gens craignaient à toutes les minutes une révolution intérieure ou l'assaut victorieux des chrétiens. Ce danger constant, cet encerclement de menaces, développait chez Oriente je ne sais quoi d'exalté dans la tendresse, chez le jeune chrétien un invincible élan du désir, et chez tous deux l'ardeur insensée des éphémères qui, voulant surmonter la brièveté du temps par l'intensité de la passion, s'écrient: oh, si nos forces doivent être brisées par le destin, que ce soit l'amour plutôt qu'un coup sanglant qui nous désarme. Quelle contrariété quand les femmes du sérail viennent familièrement soulever les tentures de la chambre dorée et interrompre leurs délices. Elles ont à raconter à Oriente les plaisirs et les déplaisirs de leurs nouvelles unions. Impossible de refuser d'entendre ces filles dévouées qu'une offense pourrait rendre dangereuse. Oriente se contraignait à les recevoir, et bientôt, se livrant tout entière à l'impression du moment, elle faisait de ces colloques qu'elle avait redoutés la plus éblouissante dépense de fantaisie, avec l'insouciante furie du papillon de nuit qui ne sait plus rien dès que s'allume le flambeau. Guillaume s'enflammait d'écouter les charmants emportements de cet esprit qui, par son mélange d'innocente ruse et de rêverie tendre et folle, lui semblait unique au monde. Mais, très vite, je ne veux ni vous voir, ni vous entendre, ni vous respirer, songeait-il. Je désire votre silence, mes yeux fermés, aucun trouble, afin que je puisse, par un sixième sens plus subtil, de cœur à cœur, vous connaître et nous lier. Tant de grâces et d'inventions, et ce perpétuel bondissement le gênait pour écouter au plus profond d'Orient ce qu'il préférait à tous ses éclats, la note vraie de son âme. Dans les jardins de l'Oronte, au temps facile avant le siège, il eût imaginé certainement que, sous un sabre levé, cet Orient éclaterait en supplications, les genoux dans la poussière, les bras nus, la bouche entr'ouverte, et réduite par la terreur à consentir à toutes les exigences. Mais à l'épreuve, voici que cette âme se révélait royale, c'est-à-dire résolue à diriger le destin, et incapable de rien accepter qui la diminuât, et violente, excessive, démesurée, elle possédait dans son arrière-pensée la raison la plus lumineuse. Il l'estimait comme une vertu vivante, préférer à soi-même une autre qui elle-même nous préféra à soi, désirer de mourir à deux pour épanouir une seule vie plus belle, appeler la volupté avec la certitude d'y tuer nos humanités et d'en surgir créature céleste, première minute sublime d'un tel amour comblé, tous les filtres de fierté, de décence ingénue et d'exaltation tendre dont Orient avait jusqu'alors composé son charme, recevait de l'incessante présence de la mort un surcroît de force. Guillaume avait l'idée de tenir dans ses bras un jeune héros. Les deux amants passaient leur jour et leur nuit dans un état de vibration de leurs âmes, montées au plus haut point et pourtant accordées étroitement. « Puissions-nous, chantait Orient, confondre nos minutes dernières, comme nous mêlons ici nos heures les plus vives, et scellés dans le repos sous une seule pierre, notre inséparable accord. Mais si la fortune adverse obtient de nous séparer, elle nous fera souffrir, sans parvenir jamais à rompre notre unité, car mon ivresse s'est glissée en toi et la tienne en moi, et j'ai laissé ton cœur recevoir de mon cœur une empreinte immortelle. Va, fuis. Je te garde aussi sûrement que tu m'emportes, l'un à l'autre mariés par mon choix. » Et Guillaume, l'ayant dans ses bras, continuait de la poursuivre, avec autant d'ardeur que s'il ne l'eût jamais atteinte. Arrachés l'un à l'autre, ils s'appelaient comme si le fleuve Oronte les eût séparés.